Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour, bonjour à tous. Écho d'ici, écho d'ailleurs est à l'heure marocaine cette semaine. C'est une grande joie pour nous d'être ici à Casablanca, la capitale économique de ce pays dont on parle tant pour son dynamisme, pour ses forces, parfois aussi pour ses faiblesses. On a évidemment par ailleurs une pensée pour les nombreuses victimes du séisme dans la région de Marrakech en septembre dernier. Casablanca, oui, où se tenait le Choiseul Africa Business Forum, une réunion majeure de décideurs économiques venus de tout le continent, avec un mot sur toutes les lèvres, souveraineté. Souveraineté, j'ouvre donc mon dictionnaire, caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Synonyme indépendance. La souveraineté économique, réclamée partout sur la planète et sans doute encore plus ici en Afrique, du fait de l'histoire récente, le poids de la colonisation, du fait aussi de l'actualité très proche, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les marchés des matières premières, le fardeau de la dette, la mondialisation qui profite surtout à quelques géants sur d'autres continents, le tout dans un contexte toujours plus incertain, le conflit Israël-Hamas faisant peser de nouvelles menaces sur la stabilité mondiale. Alors, nous, on va chercher des solutions avec plusieurs invités qui sont concernés au premier chef et que je vous présente tout de suite puisque nous sommes au Maroc. J'accueille d'abord Mehdi Tazi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, le patronat marocain. Le Maroc encore, nous sommes avec Salma Kabbaj. Bonjour.
Bonjour.
Directrice générale d'Impact Lab. C'est un accélérateur de start-up ici à Casablanca.
Oui, alors Impact Lab opère depuis 2015 en tant qu'accélérateur de start-up pour l'Afrique. On accompagne les start-up dans le développement de leur business et on accompagne également les grandes entreprises et les institutions publiques qui veulent être plus innovants et s'ouvrir à la collaboration avec ces start-up.
Et on entendra des jeunes start-upeurs et start-upeuses tout à l'heure. Le Bénin, à présent, qui est à l'honneur dans ce forum Choiseul. Bonjour, Eric Akouté.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des études de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin, l'APIEX. C'est bien cela?
C'est bien ça. Et l'APIEX qui est également l'autorité administrative des zones économiques spéciales.
Et puis une personnalité que les auditeurs de RFI connaissent déjà. Nous le consultons régulièrement quand on parle de l'économie africaine et des pays émergents. Bonjour Julien Marcilly.
Bonjour.
Chef économiste de Global Sovereign Advisory. C'est une société qui conseille les États africains dans leur gestion budgétaire, dans leurs investissements. Je résume comme ça.
Tout à fait.
À tout de suite avec nos invités. Nous sommes bien installé ici à l'hôtel Hyatt Regency de Casablanca où se tenait le Choiseul Africa Business Forum. On retrouve nos invités après une très courte pause musicale, Manal Benchlika et ce titre Morak. Bonne émission à toutes et à tous.
جاتني انا في نهارك يوم ماشي عادي اليوم الفراق بعد من وادي غادي تراق هي اللي داتني راها مراك واخبارك جاتني انا في نهارك يوم ماشي عادي اليوم الفراق بعد من وادي غادي تراق ديرلي جديد دي 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 انا والله ماشي بيدي بيدي
La la chanteuse marocaine Manal Benchlika et ce titre Morak. Nous voici donc avec nos invités pour parler de souveraineté économique en Afrique. Et c'est à vous que je pose la première question. Mehdi Tazi, le patronat marocain est en première ligne pour faire émerger économiquement ce pays. Une croissance qui s'est un peu arrêtée l'an dernier avant de reprendre en 2023 entre 3 et 4% de croissance. Le Maroc a été victime, lui aussi, de la conjoncture internationale.
Merci pour cette question. La croissance économique du Maroc a deux composantes, une composante agricole forte et une composante autre qu'agricole, donc industrielle. Les années passées ont été des années de sécheresse et donc le PIB agricole a été en baisse, mais largement compensé par le PIB industriel. Et ce qu'il est important de souligner, c'est que sur les 20 dernières années, sous la conduite de Sa Majesté, le Maroc a posé les bases d'une industrialisation en développant les infrastructures nécessaires à l'émergence de secteurs industriels. Et je pense ici au port de Tangemed, par exemple, qui est devenu le premier port conteneur de la région. Je pense aux différents autres ports comme Dakhla qui a été lancé ou le port de Nador. Je pense aux 17 aéroports internationaux, au TGV, au train grande vitesse entre Tanger et Casablanca. Donc toutes ces infrastructures sont la base qui permet d'avoir une industrie marocaine en croissance. Et c'est ce qui a permis d'avoir, par exemple, aujourd'hui, une industrie automobile qui est la première en Afrique et qui exporte à peu près 700 000 véhicules.
Et on va en reparler plus précisément dans quelques minutes. Quand on dit donc souveraineté économique, dans le cas du Maroc, c'est vraiment priorité, industrie, infrastructure.
C'est infrastructure en préalable, mais c'est industrie, c'est agroalimentaire, c'est souveraineté sanitaire, c'est aussi souveraineté énergétique, souveraineté financière. Donc il y a plusieurs aspects à cette souveraineté que nous traitons.
Éric Akouté, j'imagine que vous allez me dire à peu près la même chose dans le cas du Bénin, avec des nuances, certainement.
Oui, je vais vous dire la même chose. Le Bénin a pris un virage... Le Bénin a bien compris, hein, et tout le monde l'a compris d'ailleurs avec la Covid, que lorsque les ponts sont coupés, il faut être autonome. Donc autonome, ça veut dire quoi ? Il faut s'alimenter en toute autonomie, il faut avoir de l'énergie en toute autonomie, il faut pouvoir continuer de vivre en toute autonomie. Et donc nous avons engagé depuis maintenant 7 ans de nombreuses réformes qui visent à nous amener dans cette direction, notamment par la transformation agro-industriel de nos produits agricoles. Le Bénin est le premier pays producteur de coton et donc de soja. Nous sommes le deuxième pays producteur d'anacarde. Nous produisons de l'ananas. Donc, toutes ces matières premières que nous produisons et que nous exportions brutes, maintenant, nous sommes résolument engagés à les transformer chez nous. Et ça consiste à quoi ? Ça consiste à travailler sur les facteurs de production. C'est vrai que tout le monde peut dire que tout le monde met en place des codes des investissements pour attirer les investisseurs, mais au-delà du code des investissements, au-delà des incitations fiscales, il faut travailler sur les facteurs de production que sont la ressource humaine, que sont la terre déjà, la terre, la ressource humaine, donc une ressource humaine de qualité, l'énergie, l'eau et tous ces facteurs de production qui vont permettre à un investisseur du coup de s'installer au Bénin. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour amener le Bénin vers une autonomie alimentaire et maintenant énergétique où nous avons tout un programme en matière d'énergie.
Alors justement, Julien Marcilly, l'autonomie alimentaire, on sent bien que c'est la préoccupation pour tout le monde. Une autonomie cruciale depuis la guerre en Ukraine, avec aussi les catastrophes climatiques qui augmentent la difficulté. Qui doit investir et comment ?
Alors évidemment, l'alimentation, c'est le besoin le plus important pour chacun et chacune d'entre nous. Et comme vous le disiez, ça fait l'actualité. C'est même antérieur à la crise en Ukraine, c'est-à-dire que les cours mondiaux de l'alimentation avaient commencé à augmenter bien avant. Hein, si on fait un bref historique, il y avait la hausse des prix agricoles en Chine sur certaines denrées, puis la guerre commerciale justement entre la Chine et les États-Unis. Ensuite, effectivement, le Covid qui a aussi bouleversé pas mal de chaînes de valeur et d'approvisionnement. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, si on peut dire comme ça, la guerre en Ukraine et toutes ces conséquences. Donc je suis un peu long sur le rappel parce que en fait, ça symbolise bien que maintenant, on est passé un peu dans un fonctionnement de l'économie mondiale plus par crise d'offres, par crise d'approvisionnement que par crise de demande. Et d'où la résurgence un peu de ce concept de souveraineté. Souveraineté, ça ne veut pas dire vivre en autarcie. Hein, ça ne veut pas dire être seul, replié sur soi. Ça veut dire maîtriser ses chaînes de valeur. Donc après, toute la question pour les gouvernements et pour les décideurs, c'est de savoir comment est-ce qu'on parvient à maîtriser ces chaînes de valeur. Dans certains cas, ça va évidemment passer par plus de production locale. Dans d'autres cas, ça ne voudra pas dire forcément moins de commerce mondial ou moins d'approvisionnement à l'étranger, parce que ce ne sera pas possible, en tout cas dans le laps de temps dans lequel il faut faire les réformes, si elles sont urgentes. Mmh. Ça voudra même dire, dans certains cas, plus de commerce mondial, mais avec des partenaires peut-être plus différents, plus diversifiés. Mmh. Et donc, il n'y a pas de recette miracle, en fait. Il n'y a pas une seule recette. Et Meditasi l'a bien résumé dans le cas du Maroc. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire pour dire que le Maroc, c'est l'exemple à suivre en termes de diversification. Et pourtant, malgré ça, la croissance marocaine est toujours très fluctuante en fonction des conditions météorologiques locales qui impactent le secteur agricole. Ce qui montre bien qu'il faut trouver le bon compromis entre s'approvisionner à l'étranger et puis produire en local. Et l'un doit être un peu la roue de secours de l'autre quand les conditions météorologiques ou quand les conditions sont plus mauvaises de l'autre côté. Quoi.
Alors, on a fait un premier tour de table, une première illustration de cette volonté ici au Maroc de développer une filière, on va dire, autonome. L'automobile, jusque-là presque réservée aux constructeurs occidentaux ou asiatiques. Voici Neo Motors. C'est le premier constructeur automobile 100% marocain, basé pas très loin d'ici, de Casablanca. L'un de nos correspondants au Maroc, Sédic Khalfi, a pu joindre son patron qui nous explique sa stratégie nationale et internationale.
Construire une voiture 100% marocaine, c'est le pari que s'est lancé Nassim Belkhayat. Présentée au grand public et au roi Mohamed VI il y a 6 mois, la Neo Motors devient une réalité. Les premières livraisons sont prévues à la fin de ce mois.
La première marque automobile marocaine grand public.
La présentation à Sa Majesté le Roi de la voiture de Neo Motors.
L'investissement total prévisionnel de ce projet s'élève à 156 millions de dirhams et permettra à terme la création de 580 emplois.
Nassim Belkhayat, le créateur de Neo Motors, a eu l'idée à partir d'un constat simple. Tout l'écosystème industriel automobile existe au Maroc.
On s'est dit, mais c'est pas possible que personne n'ait pensé à faire un véhicule complet alors qu'on a tous les atouts pour le faire. On s'est informé, on s'est entouré d'ingénieurs qui nous ont expliqué pourquoi on ne devait pas le faire. Mais en fait, chaque étape, chaque difficulté, chaque non, on l'a converti en oui. Et petit à petit, on s'est bien entouré pour arriver 7 ans plus tard à présenter le véhicule complet au Maroc et à Sa Majesté.
Inspiré de la Jeep Willys, de la Suzuki Jimny ou encore de la mythique Mehari, la Neo Motors a voulu être une voiture tout public et surtout facile d'entretien.
On est parti d'une difficulté pour trouver un avantage. C'était l'utilisation de la fibre de verre qui ne rouille pas, qui est facilement réparable, qui nous permettait de personnaliser le véhicule aussi. Donc, il a beaucoup d'atouts et on a fait en sorte que ce véhicule soit un véhicule modulaire qui réponde aux atouts des Marocains et des jeunes et des moins jeunes. Un véhicule d'usage du lundi au dimanche. Tu travailles avec, mais aussi tu pars en vacances avec. La banquette est totalement rabattable et même rétractable, ce qui te permet d'avoir un volume de transport pour ceux qui veulent l'utiliser comme un véhicule utilitaire. Donc, je pense qu'on a fait un véhicule fait par des Marocains pour des Marocains avec un esprit africain.
Alors tout n'a pas été rose pour Nassim Belkhayat, mais son conseil aux entrepreneurs est de persévérer et de rêver en grand.
Ce plafond de verre qui nous empêche d'entreprendre, qui nous empêche de réaliser son rêve, on est parvenu à le briser, on est parvenu à démontrer nos capacités de jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, suite à la rencontre avec Sa Majesté Wayne, où on a présenté le véhicule, j'ai reçu des centaines de messages de jeunes start-upers, de jeunes ingénieurs, de jeunes entrepreneurs qui demandent des conseils et qui nous félicitent et qui nous remercient parce qu'on leur a permis de rêver, de continuer de rêver et de croire en leur projet et de se dire effectivement, ça peut être dur, ça peut être terrible, ça peut être long, mais il faut s'accrocher. Donc il y a eu beaucoup de bonnes leçons qui ont été partagées par la réussite de ce lancement.
Voilà pour ce témoignage du patron de Neo Motors, Meditasi, le vice-président du patronat marocain. Cette entreprise marocaine a brisé le plafond de verre. Il y a cet effet d'entraînement pour d'autres entreprises.
C'est tout à fait ça. Ce qu'a fait Nassim Belkhayat, c'est qu'il a rêvé et il a rêvé longtemps. Et ça a fini par payer. Il a réussi à créer son véhicule marocain. Ça lui a pris 7 ans. Donc ça a été probablement compliqué, mais il est arrivé. Et je pense qu'au-delà du succès industriel que je lui souhaite, il a permis à beaucoup de personnes de rêver et de montrer que c'était, il a montré que c'était possible. Et je pense que
avec un véhicule, dit-il, fait pour les Marocains, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter au marché local.
Absolument, oui. Non, il est adapté au marché local. Franchement, c'est une vraie réussite, c'est une fierté. C'est surtout un exemple, je pense, pour d'autres. Et je crois que dans l'esprit, on est passé par une phase, il y a quelques années, où une forme de succès, c'était d'avoir un partenaire à l'étranger, d'importer des produits. Ça, c'est loin derrière nous. On a eu une deuxième phase, à mon sens, où les entreprises ont développé par elles-mêmes, ont intégré un sens de l'innovation, ont réussi à produire pour leur marché. Et je crois qu'on est en train d'amorcer une troisième phase qui est celle où les entreprises vont s'exporter au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, sans aucun complexe.
Éric Acouté, cette question de l'approvisionnement que Meditasi vient d'aborder à l'instant, elle est présente aussi au Bénin. Alors vous, ce n'est pas forcément encore les voitures, c'est plutôt les motos électriques dont on parle souvent avec Spiro.
Oui, elle est bien présente partout. On parle de motos électriques au Bénin, c'est vrai. Le Bénin s'est engagé sur une voie verte. On n'est pas avec pour objectif, bien sûr, d'être autonome. On vise toujours l'autonomie. Mais il n'y a pas que les motos électriques, on a le coton. Il y a le textile sur lequel on s'est engagé également à être autonome. Il y a l'agro-industrie en général, puisque le Bénin est une puissance agricole. Et donc, d'abord, on s'appuie sur ce que nous avons en interne pour domestiquer de la valeur, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans industrie, sans industrialisation. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer son temps à exporter de la matière brute
et s'appuyer, s'appuyer sur sa position géographique aussi. Le Bénin a le Bénin, une chance formidable.
Le Bénin a une chance formidable. Le Bénin est une clé pour l'Afrique de l'Ouest. Le pays est en forme de clé. C'est naturellement que c'est comme ça. Et nous sommes le port naturel des pays enclavés comme le Burkina, comme le Niger. Et donc celui qui vient chez nous, il a tout un marché à sa disposition. Il a les pays de l'Internet, mais il a également le Nigeria qui est à moins de 2 heures de route. Et donc nous sommes en train de fluidifier les relations avec le Nigeria pour que ce marché qui aussi proche, aussi loin, dit-on, puisse être vraiment une réelle opportunité pour les gens qui s'installent chez nous et pour lesquels nous offrons des conditions qui sont comparables aux conditions qu'ils peuvent avoir en Asie ou qu'ils peuvent avoir en Europe.
Après des années un peu plus difficiles, effectivement, entre le Bénin et le Nigeria. Mais on ne va pas forcément y revenir ici. Julien Marcilly, vous avez écouté Meditasi et Éric Acouté, l'importance de faire émerger une industrie adapté au marché africain en s'appuyant sur ce qui existe localement. Quels sont les pays sur le continent qui sont les plus avancés dans cette démarche?
On en a deux bons exemples ici. De manière générale, la recette, elle est connue depuis très longtemps. Là, c'est un des aspects de la théorie économique qui est quand même bien traité. C'est depuis le début du 19e siècle, on sait qu'un pays doit identifier ses avantages comparatifs. Je dirais que peut-être ce qui fait la différence, c'est qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stratégies d'industrialisation en Afrique comme ailleurs qui, évidemment, ont été annoncées, communiquées, etc. Mais je dirais que ça, pour caricaturer, ça ne sert à rien de vouloir se focaliser sur tous les secteurs et de vouloir développer tous les secteurs en même temps. C'est-à-dire on parle de souveraineté, donc peut-être que partir des matières premières que l'on maîtrise en interne, c'est peut-être un prérequis. Et ensuite, essayer de développer une activité comme l'automobile au Maroc qui a plusieurs mérites. Parce que, un, ça sert d'exemple pour les autres et ça montre que c'est possible de réussir. Et deux, et là c'est l'économiste qui parle, c'est d'un point de vue plus macroéconomique, ça permet de commencer à accumuler des recettes et donc résorber certains déséquilibres macroéconomiques à la fois extérieurs et en matière de finances publiques qui permettront ensuite d'investir dans d'autres secteurs d'activité ou de créer les conditions en matière d'infrastructure, de formation de la main-d'œuvre qui serviront ensuite aux autres secteurs. Donc voilà, c'est en tirant un peu ce fil-là, filière après filière, et plutôt que de vouloir tout faire en même temps, c'est peut-être ça une des clés de la réussite.
On a commencé à parler de la question des partenariats, en l'occurrence entre le Bénin et d'autres pays de la région. Ça vaut aussi pour le Maroc. On a eu ce rapprochement entre OCP, le géant marocain des phosphates, et Dangote, le géant du ciment au Nigeria. C'est un exemple pour vous, Meditasi?
Ces deux entreprises dans deux grands marchés africains, que sont le Maroc et le Nigeria, qui ont travaillé leur continent et travaillé leur propre marché. L'OCP s'est très largement transformé sur les 15 dernières années en ne vendant plus simplement de la roche, mais en intégrant, en créant de la valeur localement. Donc l'OCP a largement investi et crée aujourd'hui des produits finis, donc elle a intégré la valeur. Le groupe Dangote, que je connais moins, mais est un groupe qui est probablement l'un des plus grands groupes industriels africains qui opère, je crois, dans plus de 15 pays. Et leur alliance me semble naturelle pour deux grandes entreprises dans leurs marchés respectifs.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs, est à Casablanca à l'occasion du Choiseul Africa Business Forum, où l'on parle de souveraineté économique en Afrique. Puisque l'on parle du Bénin, son président, Patrice Talon, s'est rendu il y a quelques semaines à Pékin, en Chine, pour accentuer la coopération économique entre les deux pays, pour réclamer aussi une nouvelle relation entre les pays en développement et les pays dits riches.
C'est une évidence. Aujourd'hui, plus qu'hier, que l'aide au développement classique ne suffira pas à elle seule à soutenir le développement économique durable dans les pays en développement. Il faut une nouvelle orientation de l'aide au développement. Il faut remplacer l'aide au développement par l'aide à l'investissement direct étranger. En cela, la Chine peut prendre le lead et montrer la voie aux autres pays développés par le basculement de sa politique de coopération vers la promotion et l'appui de l'investissement chinois en Afrique.
Éric Akouté, directeur des études à l'Agence des investissements du Bénin. La souveraineté économique de l'Afrique, elle passera aussi par les investissements venus de l'étranger.
C'est tout à fait ça. De toute manière, c'est le secteur privé qui développe le pays. Le rôle de l'État est un régulateur. L'État crée les conditions, l'État met en place les textes, l'État met en place les lois pour que le secteur privé puisse développer. Ce n'est pas l'État qui opère des industries. L'État peut être un partenaire, mais il crée des conditions pour que l'investisseur, pour que le secteur privé se développe. Et donc, c'est ça, il faut aller vers ça. L'aide publique qu'on a connue depuis les années d'indépendance, on a bien vu que ça n'a conduit à aucun développement. Et aujourd'hui, on parle de pays en développement, ça n'a conduit à aucun développement. Aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe au Bénin avec la zone industrielle, c'est le secteur privé. L'État se met à côté du secteur privé pour développer une zone, créer des conditions pour que d'autres industries puissent s'installer.
Zone économique spéciale.
Voilà, économie spéciale. Et là, on travaille, on prend les taureaux par les cornes, on travaille sur les facteurs de production. Il ne suffit pas de mettre en place des incitations fiscales pour que quelqu'un vienne s'installer dans votre pays. Il faut travailler les facteurs de production, que sont la ressource humaine, que sont la matière première, les infrastructures, l'énergie. Et c'est tout ça qui va faire venir le secteur privé. Donc l'aide, si elle était allée au secteur privé depuis le début, ou depuis qu'on parle d'aide, je pense qu'on ne serait plus à ce stade. Parce que le secteur privé, il investit pour gagner, il investit pour que ça soit rentable. Un secteur privé est tout ce qu'il y a de plus rationnel. Si ça ne marche pas, il change de cap. Il prend des décisions, il change de cap et il avance. Donc c'est de ça que le président a parlé et je pense que c'est un discours. Tous les pays qui appuient l'Afrique doivent entendre ce discours pour que résolument l'Afrique puisse changer de cap.
Julien Marcilly, on arrête l'aide au développement comme elle était imaginée jusque-là et on investit avec les entreprises. Les États ne peuvent pas tout faire, les États que vous conseillez d'ailleurs avec GSA.
L'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte qui a radicalement changé. Du point de vue des pays africains, on ne peut pas ne pas dire que le niveau de dette a beaucoup augmenté. C'est-à-dire que pour la région prise dans son ensemble, il est de retour à celui qui prévalait au moment des annulations de dette au début des années 2000. Ce qui veut dire que les conditions d'emprunt et les capacités d'emprunt supplémentaires sont quand même limitées. Et maintenant, vous évoquiez la Chine dans votre reportage. Parmi les pays possiblement prêteurs, dont la Chine évidemment, hein, qui a joué un rôle très important au cours des 20 dernières années, là aussi la stratégie a changé. Pourquoi ? Parce que, de manière pragmatique, la Chine a moins besoin aujourd'hui de matières premières qu'elle en avait besoin il y a encore 10 ou 20 ans. Hein. L'économie chinoise est beaucoup plus servicielle qu'auparavant, donc elle a moins intérêt à prêter en échange de fournitures de matières premières. Et puis deux, de manière encore plus pragmatique, les autorités chinoises qui ont prêté se rendent compte qu'elles n'ont pas été toujours remboursées dans certains cas, et je ne parle pas seulement de l'Afrique, hein, c'est vrai pour aussi des pays asiatiques, des pays en Amérique latine. Et donc, pour toutes ces raisons, en fait, la Chine, comme d'autres prêteurs, met aussi le frein là-dessus. Et donc, ce qui était souhaitable auparavant devient une obligation maintenant, c'est-à-dire qu'il faut encore plus promouvoir effectivement les investissements directs étrangers. Mmh. Et la question, c'est comment on fait, sachant que les capacités de financement public, de subventions sont plus limitées qu'auparavant. Ça, c'est une contrainte pour les investisseurs étrangers. En revanche, ça veut dire sans doute que des gouvernements vont être plus enclins à lâcher du lest sur d'autres types de choses, notamment améliorer les réglementations parce que ça ne coûte pas cher, en contrepartie du fait qu'il y a moins de capacités budgétaires à débloquer de ce côté-là.
On poursuit notre discussion sur les souverainetés économiques de l'Afrique dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, ici à Casablanca, au Maroc.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Bruno Faure
sur RFI.
La médina de Casablanca, où l'on croise d'ailleurs pas mal de ressortissants d'Afrique subsaharienne. Le Maroc est un pays d'immigration. Il attire les étrangers, des liens économiques qui se renforcent au niveau continental. Autre illustration avec la société Intelsia, Là, on est dans le secteur des services aux entreprises. Cédric Calfi, l'un des correspondants de RFI, a pu joindre son patron.
InTown, c'est le nom de ce bâtiment vaisseau amiral de Intelsia à Casablanca. Ici, on fait de la relation client, mais pas que, comme nous explique Karim Bernoussi, son PDG.
Nous, on permet à nos donneurs d'ordre, c'est-à-dire nos clients, les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises, de se concentrer sur leur core business. Nous, qu'est-ce qu'on leur apporte ? La mise à disposition de ressources, la mise en place de process et la mise en place d'infrastructures. Donc aujourd'hui, la partie IT, on est 600 personnes. Donc ça, c'est encore un métier que nous développons et qu'on veut encore continuer à grossir.
D'ores et déjà présent sur 4 continents, c'est sur le continent africain qu'il a vu naître que Intelsia a accéléré son développement, cela durant ces dernières années.
Nous, on s'est dit, pour aller en Afrique, on ne peut pas y aller seul. Donc on a rencontré beaucoup d'acteurs locaux. Et aujourd'hui, au Sénégal, on a 3 sites. On a 2 sites à Dakar et un à Thiès. Et à Abidjan, on a un très gros site. À côté de cela, on a récupéré les sites de Mada et de Maurice de Altis. Et ensuite, on a l'année dernière récupéré en Afrique 2 autres sites en Tunisie, en Égypte. On est sur 8 pays, mais de manière générale, nous, ce qu'on apporte au pays, c'est qu'on apporte de l'emploi. Quand on arrive, on est très bien accueillis. Et ça, c'est une des chances que nous avons dans notre secteur.
Chez Intelsia, on gère de la relation client en français, en arabe, en espagnol ou encore en portugais. Ce géant de l'outsourcing, comme on dit, ou de l'externalisation en bon français, est optimiste pour l'avenir, un avenir qui passera forcément par un développement africain.
Vu aujourd'hui le vieillissement des populations sur les pays qui sont matures, vu aujourd'hui la présence de ressources humaines de qualité dans nos pays et dans les pays en Afrique, je pense qu'il y a un vrai potentiel pour développer ce secteur-là et surtout permettre à nos jeunes de rester chez eux et d'avoir des emplois de qualité.
Permettre aux jeunes Africains de rester chez eux. Meditazi, au nom du patronat marocain, vous devez être sensible à cet argument.
D'abord, ce qu'on constate...
Créer de l'emploi.
Oui, ce qu'on constate, c'est qu'au Maroc, le Maroc est une terre d'accueil pour nos frères du continent. Et on constate ces dernières années de plus en plus d'immigration subsaharienne vers le Maroc. Dans nos entreprises, nous employons un nombre important de nos confrères, et pas compatriotes, mais co-continents africains, et on s'en réjouit. Et c'est une main-d'œuvre jeune de qualité supplémentaire qui vient renforcer notre tissu économique marocain. Donc on le voit de manière tout à fait positive et comme un avantage que nous avons. Une fois qu'on a dit cela, nous sommes aussi conscients que notre continent, de façon générale, a besoin de créer. Personne n'a envie de quitter chez soi pour aller s'installer en Europe ou ailleurs. Ce n'est jamais une décision ni simple, ni faite de plein gré. C'est souvent des décisions qui s'imposent aux gens pour des raisons de subsistance. Il faut qu'on en soit conscient. Et donc, nous sommes aussi tout à fait conscients au niveau du patronat que nous avons besoin aussi de développer notre économie, mais aussi notre état social pour que nos populations s'installent. Je prends l'exemple du Maroc. Nous avons un certain nombre de chantiers sociaux. Un, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, la création de filets sociaux qui ont agi par exemple dans le cadre du dernier tremblement de terre ou dans le cadre du Covid, et qui sont des chantiers structurants qui augmentent, j'allais dire, même si le terme n'est pas très adapté, mais la rétention que l'offre Maroc a pour ses populations.
Alors puisque l'on parle de cette jeunesse africaine et de cette jeunesse marocaine, j'ai le plaisir d'accueillir Salma Kabbage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale d'Impact Lab. C'est un accélérateur de start-up, un incubateur, comme on dit souvent. Avant de parler de votre activité plus précisément, on va les entendre, ces jeunes que vous encouragez. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Meditazi sur cette nécessité et cette volonté de retenir les jeunes Africains sur le continent et de ne pas aller chercher un avenir ailleurs, en Europe, en Amérique ou en Asie?
Alors cette problématique, effectivement, on la vit de manière très forte dans l'écosystème start-up marocain, où on voit des talents face aux difficultés qu'ils rencontrent potentiellement sur le marché marocain, préfèrent s'exporter parce que d'autres écosystèmes ont développé des propositions de valeur très fortes. Et encore une fois, c'est une question de compétitivité et c'est une question de package qu'on veut développer en tant qu'écosystème pour retenir nos talents, pas seulement en tant qu'employés d'entreprise, mais aussi nos talents entrepreneurs. On veut également pouvoir attirer des talents internationaux, notamment africains. Parce que, en tout cas, j'ai la conviction que pour pouvoir développer un écosystème d'innovation fort qui va venir renforcer la compétitivité de l'économie marocaine, on a besoin de s'imposer comme leaders régionaux de l'innovation sur certaines thématiques et pouvoir ainsi capter du talent, retenir le talent marocain, mais aussi capter du talent international qui se positionne sur ces thématiques-là en offrant un environnement favorable à la fois pour développer leur business, mais aussi pour s'épanouir dans leur vie personnelle.
Eh bien, on va les écouter, ces start-upeurs et ces start-upeuses qui veulent éclore ici à Casablanca. Nous en avons rencontré plusieurs au sein de cette société Impact Lab.
Bonjour, je suis Salma Mahafiri, je suis consultante en innovation à Impact Lab. Impact Lab, c'est un accélérateur de start-up et d'innovation. Donc, on travaille avec les start-up, on les accompagne dans leur démarche d'innovation. Et puis, on travaille aussi avec les grandes entreprises et les institutions publiques, créer des liens entre les deux mondes. On y croit énormément. C'est un écosystème assez naissant, mais il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui. C'est en train de se développer et puis le Maroc reste quand même la porte de l'Afrique, donc on arrive à trouver des liens entre le Maroc et les autres pays africains aussi pour justement aider les startups à trouver un marché un peu plus grand et à scaler ailleurs.
Bon, et comme dans tout bon incubateur, il y a des post-it au mur.
Bien sûr. Ça, c'est pour prouver qu'on fait de l'innovation, parce que sinon, les gens ne nous croient pas. Ça, c'était avec une start-up qu'on accompagne à Banque du Maghreb, qui est la banque centrale du Maroc. C'est un projet d'entrepreneuriat qu'ils sont en train de développer au sein de la banque. Et là, c'était justement pour les aider à structurer leur vision, leur impact. Et ici, c'est pour structurer leur cible.
Donc, c'est un brainstorming avec des post-it. Alors, je vois monde rural, chômeur, femme non éduquée, femme éduquée, jeune marocain intéressé par les cryptos.
Le projet d'Iramino, ils essaient de lancer une plateforme pour la sensibilisation des jeunes marocains sur les services financiers. En fait, c'est de l'inclusion financière. Et donc là, on était en train de les aider à structurer leur cible et comment ils peuvent l'attaquer pour développer un business model un peu plus solide.
Hello, bonjour.
Bonjour. Bonjour. So my name is El Mehdi Aboul Manadil. I'm the founder and CEO of DeepLeaf Startup.
Je m'appelle El Mahdi Abdul Manadel. Je suis le fondateur et le PDG de DeepLeaf. Nous sommes une start-up qui propose aux agriculteurs l'intelligence artificielle et la technologie de pointe pour détecter les maladies des plantes, les animaux nuisibles, et pour leur donner des conseils sur le traitement, l'irrigation et la fertilisation. Dans nos objectifs, il y a aussi la diminution de l'utilisation des pesticides. Nous pouvons actuellement les réduire jusqu'à 40%, avec un impact sur l'environnement et sur l'économie. Non seulement pour l'agriculteur, mais aussi pour les consommateurs, en diminuant le prix des produits. Au début, c'était difficile, mais grâce à ces incubateurs, nous sommes en contact avec les institutions gouvernementales et les acteurs de notre filière. Récemment, je suis allé en Tanzanie, j'ai participé à un concours où j'ai rencontré beaucoup d'Africains qui partagent la même vision, qui veulent prendre leur destin en main et responsabiliser les communautés locales. L'Afrique sera à la pointe de ce mouvement.
Je m'appelle Zim Smaili, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice de AM Zaman Vintage Store et de Maison Pérenne Upcycling Brand. Alors, donc je vais parler en particulier de Maison Pérenne. C'est une entreprise innovante dans le secteur de la mode durable. Donc, en gros, nous, on revalorise les déchets textiles. Aujourd'hui, l'Afrique est une plaque tournante des déchets. Donc, c'est la poubelle de l'Europe et de tous les pays. On va en produire des pièces uniques, durables et de très très bonne qualité. Donc en fait, on va prendre des couettes, des foulards, des vieux jeans, des pulls en cachemire qui ont mal vieilli. On va les transformer et on va en faire des vestes, des chapeaux, des sacs, etc. Donc vraiment, on va prendre les produits, leur redonner une nouvelle maison, et donc maison pérenne. Bon, au niveau technologie dans la production. Bien sûr, on va utiliser de plus en plus de machines qui vont nous aider à aller un peu plus vite parce qu'on n'est pas capable de faire des séries. Au jour d'aujourd'hui, on est revendu dans des concept stores majoritairement, dans des hôtels, dans des palaces. Pour notre ouverture à l'international, on a décidé d'ouvrir une boutique en 2024 dans le sud de la France, donc à Uzès, qui est une ville très charmante et qui colle complètement avec le mood et maisons pérennes.
Vous avez vu émerger cet écosystème de start-up au Maroc. Quelle est la clé pour monter en puissance, pour accélérer un peu plus vite?
Alors, on sent déjà le Maroc d'il y a 10 ans et le Maroc d'aujourd'hui. Nous, on a vécu le changement. On est en train de monter en puissance. On est vraiment en train de devenir le hub de l'Afrique. Et bien sûr, idéalement, on aimerait recevoir beaucoup plus d'investissements, beaucoup plus d'entreprises qui nous aident à accélérer, qui vont nous aider en termes de financiers et en termes de savoir-faire, parce qu'il n'y a pas que le côté financier qui compte. Le savoir-faire est très important parce qu'on a besoin d'être accompagné. On ne connaît pas tout, on est des entrepreneurs. On a commencé comme ça dans le bain sans avoir vraiment les connaissances. Et donc, le fait d'être accompagné, ça peut vraiment nous aider à l'avenir. Et on sent que plusieurs pays sont impliqués et veulent agir pour l'Afrique. Et donc, on espère que ça va continuer comme ça.
Reportage chez Impact Lab, ici à Casablanca. Éric Akouté, qu'est-ce que vous faites au Bénin pour encourager les start-upeurs et les start-upeuses, ceux qui veulent faire profiter à leur pays de l'innovation technologique?
Au Bénin, nous avons, le chef de l'État a souhaité une zone économique qui s'appelle Semé City, au-delà de la zone industrielle sur laquelle nous communiquons beaucoup. Qui s'appelle Semé City, qui est une zone économique de l'innovation et du savoir. Nous avons beaucoup de partenariats avec des instituts étrangers, avec des universités étrangères qui nous accompagnent pour asseoir le bénin de l'innovation. Et donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup de start-up aujourd'hui exportent des services, beaucoup de jeunes béninois se font former dans des laboratoires. On a des partenariats avec l'école de design de Nantes, on a des partenariats avec Epitech qui est maintenant au Bénin. On est en train d'installer au Bénin une filiale de l'école de design de Nantes avec Semé City. Donc tout un ensemble de programmes pour aider les jeunes béninois sur ce chemin de l'innovation et de la technologie. On sait que la technologie, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans technologie. Ce n'est plus possible. Notre monde aujourd'hui fonctionne avec la technologie et c'est également un secteur de croissance pour les entreprises.
Salma Kabbaj, une zone numérique spéciale au Maroc pour encourager les startups?
Alors, on a eu la chance de collaborer avec Semé City à plusieurs reprises et d'accompagner le talent béninois. Je pense que avoir une zone, certes, c'est intéressant, mais je pense que là, il faut aller au-delà des espaces physiques. Et je pense que il faut réfléchir à la manière dont on collabore, parce que vraiment la démarche d'innovation et l'impact que l'innovation peut avoir ne peut se démultiplier que si on a tous les acteurs qui réussissent à travailler de manière fluide autour de la table. Et aujourd'hui, cette innovation, au-delà de la digitalisation, au-delà d'amener la technologie dans le quotidien, cette innovation, elle est critique pour venir résoudre des problématiques clés sociales, environnementales, économiques. Elle est critique pour augmenter la compétitivité des économies africaines. Elle est critique dans une logique de souveraineté pour s'assurer qu'on arrête de dépendre toujours des technologies internationales, qu'on garde nos données sur notre continent et ne pas se laisser devenir, disons, être en position de faiblesse dans des contextes politiques mouvants. Ce qui est vraiment difficile aujourd'hui encore, c'est de créer ces ponts entre ces innovateurs, les grandes entreprises, les institutions publiques, pour faire en sorte que les idées innovantes qui sont développées soient portées à échelle par la mobilisation des ressources importantes des organisations internationales, des gouvernements et des grandes entreprises.
Julien Marcilly, on revient à nos questions de souveraineté. La souveraineté numérique indispensable dans le monde d'aujourd'hui face aux géants qui, on le sait, ont des pratiques et qui parfois sont désapprouvées.
Complètement. Un des fils rouges de la discussion, c'est que finalement, quel que soit le secteur d'activité, on a l'impression que le développement passe par l'essor de pôles de compétitivité ou peu importe comment on les appelle. Ce qui est compliqué, c'est que s'il y a des pôles qui sont plus compétitifs, ça veut dire qu'il y a d'autres régions qui le sont moins. Et c'est ça, c'est quand même la leçon des 30 dernières années, c'est-à-dire que la mondialisation est créatrice de richesses. Mais le problème, c'est qu'elle crée aussi des inégalités. Et donc la volonté ou la contrainte de certaines personnes, comme le disait Mehdi, d'aller dans d'autres zones. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on gère ces inégalités? Et ce n'est pas facile, parce que dans des économies dominées par l'industrie, on sait qu'on a besoin de réaliser des économies d'échelle, et donc qu'il faut des pôles, des hubs qui regroupent un grand nombre d'activités, et que donc d'autres zones sont délaissées. La chance peut-être, c'est que dans des économies plus servicielles, même si bien sûr là aussi ça nécessite des pôles de compétitivité, le raccourcissement de la distance géographique par justement la numérisation peut-être être une opportunité qui permet de réduire ce cap. Et donc sur la fracture numérique, évidemment là aussi on revient aux infrastructures, c'est la première pierre.
Les câbles sous-marins.
Alors, du point de vue des câbles sous-marins, la situation est plutôt correcte. C'est-à-dire que toutes les zones côtières maintenant, en tout cas 37 des 38 pays africains côtiers sont connectés via au moins un câble sous-marin. Maintenant, c'est l'étape 2, quoi. C'est comment développer la fibre terrestre au sein du continent via plutôt des acteurs locaux là que internationaux pour que justement ça infuse dans tous les pays, dans toutes les régions. Et c'est le défi d'aujourd'hui.
Salma Kabbaj, ça. Ça donne le sourire, en tout cas, de se dire qu'il y a de telles perspectives.
Oui, et je pense qu'on revient aussi à la discussion de l'aide au développement de tout à l'heure. Mmh. Et dans les nouvelles manières de réfléchir l'aide au développement, il y a aussi cet engagement des donneurs internationaux pour favoriser l'émergence de start-up qui résolvent certains des problèmes. Donc, pour donner un exemple, là, je reviens d'un événement organisé dans le cadre d'un programme à Nairobi avec la fondation Bill et Melinda Gates. C'est un programme sur la health tech et particulièrement sur l'optimisation de la chaîne de distribution de produits médicaux. Et c'est une nouvelle manière pour la fondation Gates, qui est très active dans la santé en Afrique, d'opérer, pas à travers des subventions au gouvernement pour acheter des médicaments, opérer des campagnes de vaccination, etc., mais vraiment en soutenant l'émergence d'entreprises compétitives qui viennent permettre à tous les Africains d'accéder à des produits de santé fiables, de qualité, à prix abordable quand ils en ont besoin. Mmh. Et ça, c'est vraiment intéressant comme nouvelle démarche de structurer et déployer l'aide au développement.
Oui, mais Mehdi, on n'avait pas encore parlé de cette souveraineté-là, la souveraineté sanitaire, hein, le domaine de la santé, c'est aussi une priorité au Maroc. La crise Covid a forcément marqué les esprits.
Oui, la souveraineté sanitaire est aussi importante. Nous l'avons compris, mais comme d'autres, hein, comme les Français l'ont compris aussi, au moment de la crise Covid, quand les pays se sont refermés et ont gardé leur matière première ou ont gardé leurs médicaments quand ils en avaient besoin. Donc quand la situation est devenue compliquée,
les vaccins,
le partage n'était plus d'actualité. Ouais. Moi, je me rappelle c'est le cas pour les vaccins et les masques, mais c'est aussi le cas de l'Europe de façon générale quand ils ont compris que 100% du paracétamol était produit en Asie. Donc ça rendait les choses un peu compliquées. Chez nous, nous avons une industrie pharmaceutique qui est raisonnablement développée. Donc, nous produisons, c'est une industrie qui crée à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui emploie 50 000 personnes. Nous produisons 70% de ce que nous consommons. Et là, sur la question des vaccins, par exemple, nous sommes en cours de création d'une usine de vaccins dans la région de Casablanca qui devrait voir le jour dans les semaines à venir.
Éric Akouté, on arrive presque au terme de cette émission. Parmi les solutions qu'on pourrait évoquer, la suppression des visas pour les entrepreneurs ou les opérateurs économiques qui voudraient se déplacer sur le continent. On parle beaucoup de la fameuse LECAF, mais il n'y a pas que ça. Dans l'immédiat, là, il faut pouvoir travailler.
Oui, mieux. Le Bénin a pris beaucoup de mesures pour pouvoir faciliter le business aux investisseurs au Bénin, mais pas que ça. Tout Africain peut se rendre au Bénin sans visa. Ça, c'est déjà une grande mesure. Vous êtes Africain.
C'est pas le cas dans tous les pays du continent.
C'est pas le cas dans tous les pays d'Afrique et du monde. Donc, tout Africain peut se rendre au Bénin sans visa. Vous avez besoin de visa, vous allez en ligne, vous avez votre visa en 2 minutes. Ça, c'est également une facilité sans aucune contrainte particulière. et mieux pour les investisseurs. Aujourd'hui, quand vous êtes investisseur chez au Bénin, on vous donne un titre de séjour, un permis de séjour de 5 ans. C'est une nouveauté qu'on vient de mettre en place parce qu'on s'est aperçu que la nécessité de renouveler chaque année son visa était un frein pour la vie paisible des investisseurs qui chaque année doivent se retrouver pour aller renouveler. Donc on a pris un acte et donc aujourd'hui c'est 5 ans. Donc il y a des facilités. Celui qui arrive chez vous doit se sentir bien pour y rester. C'est tout simple. Si vous n'êtes pas bien chez quelqu'un, vous allez partir. Et si, donc, au-delà des facteurs de production, on travaille également sur les conditions de vie maintenant pour permettre que celui qui vient chez nous puisse se sentir bien et bien d'abord seul, bien en famille. Et donc, on crée des conditions. On parlait d'hôpital. On est en train d'en construire un sur 4 hectares, un grand hôpital de référence. Notre vice-présidente en a parlé ce matin dans son discours, qui est un hôpital qui était en train d'être construit avec un partenariat avec Bouygues Construction, donc, qui est une entreprise française qui construit ça, et une assistance technique Hôpitaux de Paris. Donc, tout ça pour permettre de créer des conditions pour que les investisseurs se sentent bien au Bénin quand ils arrivent.
On arrive vraiment au terme de cette émission cette fois. Mehdi Tazi, on a quand même envie de dire un mot pour les victimes du séisme de la région de Marrakech. Et du point de vue des entreprises, ce travail parfois gigantesque hein, de reconstruction dans certaines localités, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Ça a été un événement terrible et merci pour vos mots. Très vite, l'État s'est mobilisé avec toutes ses composantes. Le ministère de l'Intérieur, l'armée s'est mobilisée également, mais aussi la société civile et les entreprises. Et très vite, dès le lendemain, il y avait énormément de personnes sur le terrain qui apportaient une aide alimentaire, sanitaire aux populations.
Les entreprises.
Et les entreprises, bien entendu. La ville s'est vite remise autant que faire se peut. Moins d'un mois après, Marrakech a organisé les assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI en accueillant près de 15 000 personnes, 15 000 dirigeants, donc 200 délégations, 200 ministres des Finances, 200 banques centrales, plus tout l'écosystème qui tourne autour. Donc ça montre bien qu'il y a une grande résilience.
Le tourisme ne s'est jamais vraiment arrêté.
Non, le tourisme ne s'est jamais vraiment arrêté.
Il a repris son envol.
Absolument.
Dans le reste de la région, il y a quand même des villages qui ont été dévastés.
Absolument. Mais c'est ce que j'allais poursuivre en disant ça. Il n'en reste pas moins que les populations ont été touchées. L'État continue à supporter. Les entreprises continuent à supporter. Les populations continuent à supporter. L'État a par exemple mis en place une aide directe financière à l'ensemble des personnes qui ont été touchées par le séisme. L'État, à travers le fonds des événements catastrophiques, apporte également une solution en finançant les logements, enfin à travers ce fonds et à travers les fonds d'État directement, en apportant une aide financière pour reloger. Donc le programme de reconstruction est en cours. L'ensemble des composants de la société marocaine sont mobilisés, avec à leur tête Sa Majesté le Roi.
Et on n'a pas parlé des belles perspectives qui s'ouvrent pour votre pays avec l'organisation, par exemple, de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde en 2030.
En 2030, absolument. Donc
des marchés importants pour les entreprises marocaines aussi.
De façon générale, certaines études disent en prenant l'historique, que les pays organisant des événements de cette ampleur connaissent une croissance presque double de leur croissance normale sur les 5 à 6 années qui précèdent ces événements. Donc évidemment, on a beaucoup d'espoir pour l'économie de façon générale, mais d'abord pour notre pays.
Et un jour, ça sera sans doute le Bénin. Merci à tous.
Merci.
Merci à Mehdi Tazi, vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Merci à Salma Kabaj, directrice générale d'Impact Lab. Merci à Eric Akouté, directeur des études de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin. Et merci à Julien Marcilly, chef économiste de Global Sovereign Advisory. Merci aux organisateurs de ce Choiseul Africa Business Forum. Merci à Bertrand Éclair pour la prise de son et la réalisation de cet écho d'ici, écho d'ailleurs. Merci à vous tous de nous écouter et de nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre compte Facebook RFI Echo, où vous pourrez voir des images de ce tournage ici à Casablanca, au Maroc. Un nouveau journal tout de suite sur RFI et RFI.fr. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.